Hear his heartbeat, little that do. Diggy diggy do, diggy do do. Diggy diggy do, diggy do. You love me and I love you, and when you love it is natural do. Diggy diggy do, diggy do do. Diggy diggy do, diggy do. I'm so very diggy diggy do by nature. If you don't say diggy diggy do, you're made, you're gonna lose a papa, so let those funny people smile. How can I be a virgin? I'll diggy diggy do, diggy do do. Diggy diggy do, diggy do.
Une année environ avant la fin de la guerre, était apparu le jazz, d'abord très différent de ce qu'il est devenu depuis. L'orchestre ne comportait pas de cuivre, mais seulement, en dehors du piano et de la batterie, des instruments à cordes, banjo, contrebasse, qui ressassaient le rythme. En outre, chaque exécution était presque d'un bout à l'autre dominée par la batterie qui s'avérait écrasante. Il y a loin des cadences implacablement obsédantes de cette époque, aux productions même les plus acérées qu'on entend aujourd'hui. La qualité était plus médiocre, sans doute, à coup sûr plus grossière, et il y avait beaucoup moins d'inventions. Mais je crois pouvoir affirmer, sans qu'on puisse imputer ce jugement à l'émoussement de mes sensations, c'est-à-dire en dernière analyse, au fait que depuis lors, j'ai vieilli de plus de 15 années, et que le jazz se présentait alors avec une frénésie que nous font regretter, quel que soit l'indéniable perfectionnement qu'elle représente, la plupart des auditions actuelles, si artistiques et si guindées, sauf dans les cas très rares où s'y donne libre cours le baroque le plus délirant. Dans la période de grande licence qui suivit les hostilités, le jazz fut un signe de ralliement, un étendard orgiaque aux couleurs du moment, etc.
Vous citez ce texte, Yannick Seyté, dans une étude que vous avez consacrée à Michel Léris et le jazz, qui s'appelle « L'âge du jazz », d'ailleurs. Pourquoi avoir cité ce texte ?
Il me semble que c'est un texte qui, ma foi, par exemple, a pu faire beaucoup pour la reconnaissance de Léris parmi les amoureux du jazz, et à l'inverse, qui probablement, il est possible que le jazz en France doive quelque chose à des textes tels que celui-là. Quoi. C'est dans un livre Carrefour par Michel Léris, qui est à la fois un début et un bilan, hein, L'âge d'homme, et bien c'est là aussi un texte marquant de cette œuvre Carrefour.
Vous dites d'ailleurs qu'il faut chercher le jazz en lui, donc chez Michel Léris, dans sa vie, son imaginaire. Le rapport de Léris au jazz est d'abord biographique.
Il me semble en effet que, pour essayer de rendre la chose plus sensible, on pourrait presque faire un rapide parallèle avec un ami de Léris, un camarade en surréalisme, qui est Robert Desnos. Il y a un moment de sa vie où Robert Desnos, pour gagner sa vie d'abord, tout simplement, se fait chroniqueur de jazz, rencontre, dans des journaux à grand public éventuellement, rencontre de disques. Il a là donc un regard, j'allais dire, le mot est mal choisi, mais une oreille, disons, professionnelle, non pas de musicologue, mais de personnes s'adressant à un vaste public pour leur donner une idée de la musique qu'ils vont pouvoir acheter et entendre. Il arrive aussi à Léris de rendre compte de quelques disques au cours de sa vie, mais c'est d'abord pas du tout dans le même genre de journal, c'est dans la revue Documents qu'il contribue à fonder avec Georges Bataille. Et puis on se rend compte, en lisant en parallèle ces deux types d'écrits, de gens très proches à bien des égards, très amoureux du jazz l'un et l'autre, eh bien que ce dont nous entretient au fond Léris dans les chroniques qu'il fait de disques de Duke Ellington pour Documents, c'est de lui-même. C'est-à-dire que, sans qu'il soit incapable, loin s'en faut, d'apprécier la musique, et la musique de jazz en particulier pour elle-même, d'en avoir une consommation, disons, esthétique, eh bien, il la rattache. Il rattache tel de ses disques, tel de ses morceaux, à tel moment majeur de sa vie. Ce qui fait qu'il a une approche fondamentalement subjective, au sens propre du terme, de cet art.
Et une autre figure, je dirais, surréaliste que vous évoquez, à qui on pourrait comparer Michel Léris, qui est Philippe Soupeau.
On dit très, très généralement que le surréalisme, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais disons, le surréalisme a eu non pas la musique en horreur, mais en méfiance, à la suite de Breton lui-même, qui aurait eu avec cet art musical des relations, dit-on, difficiles. Et quand on regarde un petit peu les choses de plus près, on s'aperçoit qu'un bon nombre de surréalistes authentiques de la première heure, des fondateurs, y compris des fondateurs comme Soupeau et donc Desnos et d'autres encore, eh bien, ma foi, étaient assez affranchis sur cette question et s'intéressaient à cette forme d'art de manière très libre et très, enfin, avec beaucoup d'intensité, et dans le cas de Soupeau en particulier. Et plus je travaille sur l'œuvre de Michel Léris, autour de la figure de Michel Léris, plus je me rends compte que probablement, Et on voit très bien en lisant leurs œuvres, ou des biographies qui leur sont consacrées, ou même tout simplement les textes qu'ils ont écrits eux-mêmes, que des gens comme Soupeau et Léris, s'ils se citent même très rarement, fréquentent au même moment les mêmes lieux. Des caves en particulier de Montmartre, où tous les musiciens noirs, ou à peu près tous les musiciens noirs des années 20 et 30 se produisent. Leur rêverie les amène à errer autour des mêmes lieux et des mêmes figures.
Et Aragon aussi. Oui.
Aragon, qui est de cette troupe également, Jacques Baron. Hein, alors que Breton est peint par Léris lui-même comme très en retrait. Pourtant, il habite dans les lieux mêmes, rue Fontaine, je crois. Mmh. Il habite sur les lieux mêmes de ces fêtes et de cette vie nocturne très intense où les musiciens noirs jouent un rôle de premier plan. Et pourtant, il est peint par Léris comme en retrait. Avec Aragon, au contraire, il dit « on pouvait s'amuser ». Alors, avec Soupeau aussi, probablement, on pouvait s'amuser. Ils ont, dans leur imaginaire, cette espèce de rapport privilégié à quelques figures de musiciens ou de musiciennes. Une danseuse, par exemple, pour Philippe Soupeau, une petite danseuse noire qui était arrivée dans les années 20 avec une des premières grandes revues à s'être produite en Europe, sur la figure de laquelle Soupeau ouvre son texte Terpsichore, ou bien la chanteuse et la meneuse de revue Ada Smith, Bricktop, pour Léris. À l'une et l'autre de ces figures féminines, c'est sans doute pas un hasard non plus, bien Soupeau de son côté et Léris de l'autre consacrent des pages tout à fait intéressantes et qui attestent en somme d'une parenté dans la sensibilité musicale et dans l'imaginaire en général.
Cependant, vous les différenciez par rapport, disons, au niveau des textes. Hein, le rapport, disons, au noir, au nègre, entre guillemets, comme on disait à l'époque, n'est pas du tout le même. Mais le rapport à l'autre, disons, l'altérité.
Le rapport à l'autre, en ce sens, d'abord, que le rapport à eux-mêmes n'est pas le même. Voilà. Hein, il y a une espèce de... Soupeau, dans les années 20, écrit un roman qui a un titre important pour nous, puisqu'il s'intitule justement « Le nègre ». Et ce nègre, entre guillemets, est une figure récurrente de toute son œuvre poétique, mais aussi romanesque en général. Or, Soupeau écrit quelque chose, je cite en substance, « J'ose vous ressembler lorsque je vis, dit-il, ô nègre, j'ose vous ressembler lorsque je vis. » Et il fait un parallèle même physique entre lui et ses cheveux frisés, etc., ses épaules trop larges, et le nègre, les nègres. Toutes gens dont on admirait à l'époque l'extraordinaire aisance physique, avec la revue Nègre et toutes celles qui ont suivi, on leur attribue une espèce d'aisance physique, aux confins sinon d'un racisme, parfois d'un racialisme, même le mieux inspiré. Et donc Soupeau, lui, se retrouve tout à fait dans cette aisance physique. Il a une forme de projection plus simple que celle de Léris, qui, au contraire, est en difficulté, en somme, avec son propre corps, et qui observe l'aisance réelle ou supposée des danseurs, des musiciens noirs qui fréquentent beaucoup le Paris, des nègres de jazz, comme dit un autre écrivain du temps qui s'appelle Léopold Fargue, parle des nègres de jazz. C'est assez dire, cette expression figée, à quel point, dans un certain milieu, évidemment, à certains moments, à certaines heures du jour, j'allais dire, le noir, le musicien noir, fait partie du paysage. Eh bien, Léris, lui, observe ces nègres de jazz avec quelque chose qui est plus près de l'envie et du sentiment d'une inaccessibilité dans un certain rapport au monde et au corps qui serait aisé, agréable et immédiat.
Novembre. Perte de ma pince à épiler. Je suis plus agacée qu'il ne s'y irait par ce minime incident. Il fait figure de mauvais présage, car pas de lettre de Z au courrier. Lettre de K, m'apprenant que le congrès de Kharkov a formellement condamné la dissidence surréaliste. Aux dernières nouvelles, il paraît qu'Andier a payé son stock de recettes et d'esprits, l'un dans l'autre, 30 000 coris. 5 novembre. Moufle a tué hier soir son deuxième caïman. L'état de santé qu'il a allégué pour motiver sa démission ne s'opposant nullement à la tartarinade. Un deuilleur en retard est venu lâcher encore 2 ou 3 coups de fusil sur la maison du chasseur mort. À des danseurs venus d'Irelli, nous achetons de très beaux masques. Comme rituellement, ceux-ci ne peuvent se vendre, un subterfuge intervient qui satisfait les deux parties. Il est entendu que nous réquisitionnons. Il est entendu aussi que, les danseurs d'Irelli étant de bons amis, nous leur faisons à chacun un cadeau en argent. Mais il est bien certain que ces deux opérations n'ont rien à voir ensemble et ne sauraient, en aucun cas, être confondues avec un acte de commerce. Leur responsabilité ainsi dégagée, les danseurs sont très contents.
Julien Bosque, vous avez réfléchi sur le fait, comme le dit Michel Héris, que l'art africain est un art parmi les autres, et vous avez mené une expérience en pays lobby en Afrique, comparant, si je puis dire, ce qu'il en est des œuvres d'art et des artistes occidentaux et ce qu'il en est des œuvres d'art et des artistes africains, et vous inspirant d'une phrase justement de Michel Héris. La voici. Dans une histoire de l'art, on ne peut, il va de soi, s'en tenir à la considération des seuls objets, et les œuvres en question resteraient par ailleurs lettres mortes si l'on ne donnait quelque idée des hommes qui les ont produites et de ce qu'ils avaient en tête.
Oui, en 1967, il y a eu la publication d'Afrique noire, la création plastique de Michel Léris, qui a été rééditée heureusement par Jean Jamin en 1996 dans la collection Quarto. Et ce livre, Afrique noire, la création plastique, était assez précurseur dans l'appréciation des arts africains en Occident pour deux raisons principales. La première, c'est que Michel Léris opérait une manière de subversion méthodologique, comme dit Jean Jamin, en ce que pour la première fois, il disait en effet que l'art africain n'était pas identique à l'art occidental, mais que c'était en effet un art parmi les autres et qui devait être considéré également comme un art. Mais avec une vision légèrement décalée par rapport à la vision qu'on pouvait avoir de l'art en Occident. Deuxième point important de ce livre, et alors ça rentrait dans des idées qui avaient été aussi proposées par Denis Paulme et Jacques Maquet dans les années 60 et qui ont fondé ce qu'on a appelé l'ethno-esthétique.
Il y a eu très longtemps, on a considéré des pas de l'art, c'était toujours des objets culturels et non pas culturels.
Ça c'est en partie la faute des ethnographes et des ethnologues qui pendant longtemps ont considéré que ces objets n'avaient qu'une valeur fonctionnelle, une valeur d'usage, pour reprendre l'expression de Denis Ollier dans sa préface à la réimpression de documents, et on avait mis complètement à côté la valeur esthétique de ces objets. Or, d'un autre côté, c'est un conflit qui existe toujours avec, d'un côté, donc les ethnologues, pour qui ces objets ont uniquement une valeur d'usage, et de l'autre, des marchands, des collectionneurs, qui ne retiennent de ces objets-là que leur valeur esthétique. Et alors, le travail de Michel Léris et de Denis Paulme ou Jacques Maquet était important parce qu'ils ont fondé un petit peu cette notion d'ethno-esthétique qui, justement, permettait de montrer que un objet était d'autant plus efficace qu'il était beau. Et ça, non pas de notre propre regard, mais pour les Africains eux-mêmes. Voilà. Et autre point important de ce livre, c'est en effet qu'il mettait l'accent sur le fait que les productions africaines ne relèvent pas d'un art anonyme, comme on a eu trop tendance à le croire, et comme il arrive encore aujourd'hui qu'on les considère, telle statue est Dogon, telle statue est Lobby, ou c'est Nouveau. Voilà, et on oublie toujours de mettre un nom sur par exemple des sculptures ou d'autres objets africains.
Sur les artistes.
Sur les artistes, voilà. On oublie toujours les artistes.
Yannick Seyité.
Une des grandes questions qui agite l'Europe éclairée dans les premières années du siècle, c'est de savoir si, ma foi, le jazz, c'est de l'art ou si ça n'en est pas. cette musique, est-ce que c'est de l'art, est-ce que ça n'en est pas? Eh bien, Lyriste s'est très peu exprimé sur la chose. Il n'empêche que tout le travail qu'il a effectué autour de ce qu'on appelait l'art nègre, donc la sculpture en particulier, qui a donné lieu chez lui à un gros livre, peut nous aider à approcher cette question. Et toutes les mises au point qu'il a faites autour de la sculpture africaine, par exemple, peut nous permettre de débrouiller cette question, de savoir si c'est de l'art, si ça n'en est pas, ce jazz. On le voit aujourd'hui, cette question en pleine actualité, autour des querelles entre, disons, les esthètes et les ethnographes, autour du musée des arts premiers ou primitifs. Mais la question, il me semble qu'en lisant Lyriste attentivement, on se rend compte qu'il nous montre que s'agissant du jazz en particulier, non seulement bien sûr cette musique est un art, mais c'est que surtout que ça nous a, le surgissement du jazz nous a amené à redéfinir ce qu'il en était de l'art et ce qu'il n'en était pas. C'est-à-dire que la statuaire africaine ou bien le jazz sont des événements de la première moitié du siècle en Occident qui nous amènent à redessiner les contours, les territoires de ce qui relève de l'art, de ce qui ne relève pas. On pourrait en dire autant de...
Et ce qui est l'art aussi.
De ce qui est l'art, bien entendu. Ça nous aide à faire bouger, progresser cette définition. On pourrait en dire autant de toutes les questions de l'art dit populaire, auxquelles les surréalistes étaient si attachés. Tout ce qui était les premiers films parlant de mauvaise qualité, le mélodrame, je ne dis pas la bande dessinée, mais justement Fantomas ou des choses comme ça. Et ce sont des instruments de... heuristiques, on peut dire, qui nous permettent de questionner les catégories qui ont cours depuis plusieurs centaines d'années en Europe occidentale. Et Lyriste est tout à fait sensible à ça.
Yannick Saïté, il y a une phrase de Michel Lyriste que vous citez et qui prend, j'allais dire, tout son sens aujourd'hui. Michel Lyriste a écrit « Au fond, ce que j'ai trouvé fantastique dans le jazz, c'est l'espèce d'africanisation des musiques européennes. »
Ce que pointe ici Lyriste, c'est au contraire... sans employer le mot, mais il l'emploiera dans d'autres moments de son œuvre, je crois, c'est justement une musique métisse, c'est-à-dire le produit d'une histoire qui est la plus souvent dramatique. Il n'y a pas de musique métisse qui ne se fasse pas de manière, dans une certaine forme de violence, que ce soit le raï, le reggae ou le jazz. Et il a très bien compris, et parmi les premiers, cette africanisation de la musique occidentale qui est, ou on pourrait dire l'inverse, la question des doses, des dosages et de l'hybridation mutuelle est encore ouverte par les musicologues aujourd'hui. Il a très bien compris, le premier, cette espèce de miracle de la rencontre et de la manière dont l'histoire avait produit, engendré une musique en effet métisse. Il n'y a que Cocteau et lui, à mon avis, qui emploient ce mot très tôt à propos du jazz, bien avant évidemment qu'il ait cours comme c'est le cas aujourd'hui.
The night is like a lovely tune. Beware my foolish heart. How the ever-constant moon. Take care, my foolish heart. Love and fascination. That's hard to see on an evening such as this, for they both give the very same sensation. When you're lost in the magic of a kiss, his lips are much too close to mine. Beware my foolish heart. But should our eager lips combine, then let's
the fire starts for this time. It is a fascination. Or a dream that will fade and fall apart. It's love. This time it's love. My
première route. Depuis 3 jours, c'est-à-dire aussitôt après mon week-end à Baden-Baden, je suis installée chez ma mère. Je m'aperçois que je m'y ennuie tout autant que chez moi. 2 soirs de suite, je suis sortie avec Bataille. C'est toujours la revue nègre et ce qu'elle symbolise qui est au centre de nos préoccupations. 4 août. Cafard monstrueux. Je me sens seule à en être malade. Passer la nuit avec Bataille à Montparnasse et à Montmartre, Music Box, Bricktop. Chercher Sylvia à la gare d'Orsay, arrivant d'Auvergne au matin. Je regrette de ne pas m'être installée à l'hôtel. J'ai l'impression que cela aurait été tout de même moins terrible. Je ne peux rien lire, faire attention à rien. Incapable d'écrire un article ou même une ligne pour document.
That's so hard to see on.
24 août. Les Colored Girls américaines, quand elles chantent pour elles-mêmes, ont des voix qui dépassent tout ce qui peut s'exprimer. C'est plus grave que la mer et que les montagnes. C'est bouleversant comme la pluie. Toutes les routes, tous les sentiers s'y sont croisés. J'ai toujours été hantée par des accents de ce genre. Et ce sont toujours ces accents qui m'ont fait comprendre à quelle éternité de malheur j'étais vouée. Ce sont des images pour moi inoubliables que les images de celles qui ont ainsi chanté Bricktop, Geneva, Washington, qui ont secoué les pierres des routes, Bertie Boyd, Irma Miles, qui sont des plantes plus intimes. Les baisers dont je garde le souvenir le plus aigu sont des baisers anonymes, ou quasi anonymes, en tout cas jamais répétés ni suivis d'autre chose. Ainsi, une femme inconnue dans un bar de Nantes, Ruth Johnston, au Music Box.
Je ne sais pas si le jazz le nourrit ou bien le lui rend sensible ou bien le renvoie cette image hein, de la vacuité, une forme de vide intérieur, mais de vide qu'il rend lui, qu'il joue très organiquement. Hein, il s'estime comme vidé ses organes. C'est pas le vague à l'âme ou autre chose comme ça, mais c'est aussi poussé stylistiquement au paroxysme. C'est dit de manière paroxystique.
Il reste une question, Yannick Saïté. Le jazz serait-il à l'origine de la vocation d'ethnographe comme Michel Béris ?
Alors au fond, c'est une question à laquelle il est impossible de répondre, mais il est commode au fond de s'en tirer en évoquant Léris lui-même ayant bougé sur cette question. Hein, je parlais tout à l'heure d'un Léris parfois excessif, mais enfin c'est un excès d'écrivain, c'est sa manière d'être en rapport avec l'écriture et le monde. Alors mon Dieu, le Léris plus âgé revenant à l'occasion d'entretien sur cette question, de savoir si son... sa carrière d'ethnographe était due au jazz, eh bien, ce Léris plus âgé a tendance à modérer le Léris jeune qui affirmait haut et fort, dans l'âge d'homme, je crois, en particulier, que oui, ma foi, oui. S'il n'y avait pas eu le jazz, sans doute, Léris ne serait pas devenu ethnographe. Dans les années 60 et 70, donnant des entretiens, il a tendance à modérer le caractère positif de la réponse. Il n'empêche que ça a incontestablement joué un rôle. Mais il faudrait replacer le jazz à ce moment-là parmi d'autres schèmes propres à l'histoire et à la biographie de Léris. Il a lui-même pointé des figures de noires hein, de sa mythologie enfantine qui ont sans doute également joué un rôle. Et pourquoi pas le Raymond Roussel d'Impression d'Afrique. La polinéaire continuité ou la briser avant même qu'elle s'instaure. C'est à cela que répondent et le plaisir que je prends à établir, en quelques mots, de pseudo-définitions de dictionnaire, et mon goût, excessif, je le sais, du point de vue des gens de goût, pour les incises, et les mises entre parenthèses ou entre tirées, liées quant à lui non seulement au besoin, par crainte constante du faux pas, de préciser ou corriger, quand je tiens à m'exprimer de manière circonstanciée, en tâchant d'éviter toute monotonie assoupissante, y compris dans ma ponctuation, mais au désir de couper mes phrases, les syncoper, les morceler, autres tactiques pour esquiver le ronron et de façon en zigzag que snobisme encore. Il ne me déplaît pas de comparer à celle dont les chanteurs et chanteuses de jazz, lancés dans la volubilité cascadante du scat singing, semblent, avec leurs tranches de mots bousculés et truffées de syllabes intercalées, s'acharner, comme fit un temps le comique Darry Cole, qui du dard au haricot faisait rigoler lorsque son bafouillage tout bégaiement, métathèse et quiproquo donnait à craindre de bientôt ne plus savoir parler et causer un vertige auquel on échappait par le rire, s'ingénier à mettre en place les paroles de leur chant, forme extrême, dirait-on, de ce qu'on trouvait déjà dans nos vieux opéras bouffes, redouillis précipités si fréquents chez Rossini, proche homonyme du gélatineux Tino Rossi, car les mots savent mentir eux aussi et demanderaient parfois à être redressés, ou césure saugrenue, cisaillant intempestivement le texte en plus d'un endroit des parodies offenbachiennes. To do the raccoon. Every day you have a thousand euros. Every day the raccoon goes to have fun. Date a girl and stop to hurry her right downtown to some big furry as soon. To do the rat.
Janvier. Ma vie est toute construite, tracée, fixée. Droit vers le marécage de la mort. Une femme m'aime, je suis mariée. Quelques hommes m'estiment, ils comptent sur moi, je compte sur leur gagne-pain. Et je dois travailler. Dans de telles conditions, il ne peut plus être question d'aucun plaisir. Irai-je à tel spectacle? Non, puisque si j'y allais, ce serait avec ma femme, avec Zette. Elle pense que je suis trop compliquée. Elle me cite en exemple ceux qui savent être simples. Malheureuse, si j'étais un homme plus simple, il y a beau temps que je t'aurais quitté. À quoi correspond somme toute cette idée d'un journal de ma vie officieuse? Il n'y a pas 15 jours, pourtant, je disais à Bataille que j'en avais assez des autobiographies, qui sont pure castration, pire encore, littérature d'esthète. Hier soir, m'ennuyant, ayant trop chaud chez moi, je me suis promenée. Nulle envie d'aller chez quiconque. Envie encore plus nulle de me débaucher, simplement être seule. C'est-à-dire moins seule en vérité qu'avec d'autres, et me promener. J'ai suivi l'avenue de Versailles, remonté la rue Michel-Ange, pensé un peu à ce que j'y ai de souvenirs d'enfance, remonté le boulevard Excelmans, puis le boulevard Suchet, puis ensuite l'avenue Henri-Martin, où du temps que j'étais à Janson, j'avais un camarade, un Suisse nommé Geyser, de l'avenue Paul Doumer. Songez un instant à m'arrêter à un bar, modeste et louche, dit le Michel's Bar, mais passé par pure timidité. Redescendu l'avenue Mozart, couché, rentré. Premier pas dans la vie officieuse.
Marc Auger, une lettre de Michel Léris à sa femme Louise, dite Zette, en 1931, alors qu'il est en train d'écrire l'Afrique fantôme. Voilà ce qu'il écrit. Je sais que je ne joue pas la comédie et que le personnage voyageur n'est pas pour moi un rôle, mais le seul personnage que je sois avec sincérité.
Je pense que, et c'est quelque chose que on peut comprendre, c'est un petit peu dans cette position du voyageur en train de regarder qu'il se sent d'une certaine façon le plus à l'aise, n'est-ce pas? Peut-être précisément parce que il n'a pas à se définir comme jouant un rôle. Alors le rôle est là, bien sûr, le rôle est là puisqu'il est ethnologue et que, bah, d'une certaine manière on pourrait considérer que c'est ce qu'il y a de plus particulier et de plus fort comme personnage. La preuve, c'est que des tas d'hypothèses de la part de ceux qui étaient ethnologisés peuvent être formulées sur la nature de ce qu'on fait. Mais on voit bien que lui, qu'il trouve là sans doute une sorte de, je sais pas comment dire, une sorte de pureté, enfin de définition minimale de soi, de ce soi qui est lui si difficile à définir. En fait, la position, idéalement, d'un sujet qui se définit tout entier par le regard qu'il porte sur les autres, c'est une définition limite. Si l'on n'est plus que ce regard, et peut-être à certains moments arrive-t-on à n'être que ce regard, eh bien on n'a plus d'interrogation sur soi, sur le rôle qu'on joue, sur la manière dont on va réagir, etc. Alors c'est... En même temps, ça veut bien dire que l'on est devenu simple regard, c'est-à-dire que l'on répond peu aux questions des autres, parce qu'on est devenu entièrement soi-même interrogation. C'est évidemment faire abstraction du fait que on peut être aussi l'objet de la curiosité des autres. C'est ce dialogue minimum qui n'est pas toujours présent dans la situation ethnologique.
Liquidation. Éveillé seul, sans route, bagage, campement, bête de selle ou de charge, dans la savane aigre de ma nuit. Plus de chambre, d'air, de lueur, de temps, et pas de possibilité de fuite lunaire. Grand mât sans signe ni oriflamme, mentule fragile, à peine encore vivante, haute colonne à cannelure en rides amères plantées au centre de mon lit, ô neige, lait cristallin des douleurs. Je gis au pied de ce jet dédaigneux, moi qui tiens dans mes caisses, mes poches, mes mains, ma tête, tant de drogues clandestines et d'artifices défendus, parmi lesquels la science infuse de tuer dans l'œuf tout mien plaisir.
Oh,